Bonjour Jean-Louis Lezac-Meur, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre dernier roman, Les Voix des Chamans. Ce roman, vous l'avez publié l'année dernière. Il traite de la Mongolie, de la vie des steppes, de la reconstruction de ce pays, de ce territoire après la grande épopée soviétique. Et les habitants de la Mongolie souhaiteraient retrouver leurs racines. Jean-Louis, comment vous est venue cette idée de parler de ce territoire ?
Alors, c'est un démarrage un peu compliqué. Enfin, je travaillais aux États-Unis et en 90, je suis allé un jour faire des cours dans un supermarché. J'ai vu dans une boîte transparente des morceaux de pierre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on vendait des restes du mur de Berlin, près d'un du mur de Berlin. Et la question que je me suis posée, c'était pas simplement pour les Berlinois ce que représentait la chute du mur, mais ce que pouvait représenter à l'autre bout de l'Empire soviétique l'effondrement du communisme. Et donc, j'ai vu la steppe et j'ai écrit une première partie qui s'appelle Steppe atomique, où j'imagine des habitants de la steppe qui sont confrontés à une maladie bizarre. À l'époque, ils ont été privés de leur nomadisme, c'est-à-dire qu'ils sont devenus sédentaires, ou ils étaient sédentarisés. Et je voulais savoir comment ils allaient réagir, sachant qu'ils avaient perdu beaucoup de repères. Et donc, je fais intervenir un personnage qui est un chaman et qui va amorcer une transformation dans le village.
Oui. Donc, on s'aperçoit à la lecture de ce roman que vous avez quand même fouillé cette affaire. Vous avez, parallèlement à cette recherche de retour aux traditions, vous avez également constitué une intrigue sur l'enfant. Et le couple, qui est les personnages principaux de ce roman, cherche à se construire, à s'unir le plus possible. Et compte tenu de cette maladie dont vous avez parlé tout à l'heure, la jeune femme ne peut pas avoir elle-même d'enfant. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus cette histoire justement d'enfantement d'une tradition et d'enfantement d'un enfant.
Alors l'idée, c'est qu'il faut que ce village nomade se reconstruise. Pour se construire, il faut d'abord des débouchés économiques, donc amener le tourisme. Ensuite, retrouver des valeurs, puisque la société mongole reposait en grande partie sur le chamanisme et que les chamans ont été écartés, voire éliminés par le pouvoir soviétique. Il y a un problème de système de valeurs pour relancer un peu cette société mongole. Et donc, les deux personnages principaux, dans la première partie qui s'appelle Steppe atomique, sont confrontés d'abord à la maladie et ils incarnent un petit peu l'espoir hein, pour la société mongole. Et ça, c'est une nouvelle que j'avais écrite il y a à peu près 20 ans. Et puis, j'ai rencontré mon éditeur, il m'a dit, c'est bien, mais ça ne fera pas un roman complet. Donc, j'ai fait une deuxième partie qui projette les personnages 10 ans plus tard. Entre-temps, les adolescents ont grandi, ils ont mené à bien leur projet, étudiant en médecine et photographe. Et je retrace aussi le destin d'un chaman que j'avais évoqué dans la première partie et aussi l'apprentissage du chamanisme qui permet de reconstruire un petit peu la société mongole. Donc il y a deux images, il y a l'espoir pour une certaine part de la population mongole et puis le désespoir pour les anciens nomades qui se trouve dans une sorte de bidonville aux alentours de la capitale Oulan-Bator. Et donc, l'idée, c'est de retracer une partie de l'histoire de la Mongolie au XXe siècle, notamment entre 1940 et 1990 à peu près, et puis d'essayer d'injecter un peu d'espoir dans une vie qui est devenue très difficile.
Donc là, je pense qu'on est dans le cœur du sujet. Alors, il y a quand même une question qui peut être évoquée, c'est ce rapport entre la réalité et la fiction. Parce que, vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est aux États-Unis que l'idée vous est venue, mais ça n'est pas en steppe mongole. Alors, comment construire un récit, aussi frais, réaliste, avec des descriptions tout à fait pertinentes sur le territoire steppique, et comment réussir à s'imprégner de cette réalité qu'on n'a pas forcément vue de ses yeux?
Alors au départ, la question qu'on pose sur les lecteurs, c'est est-ce que vous êtes allé en Mongolie? Alors on n'a pas demandé à Jules Verne d'aller sur la Lune pour écrire un roman, Donc moi, ça ne m'a pas trop gêné. J'ai déjà pas mal voyagé. Mais non, je ne suis pas allé en Mongolie. Ça ne m'empêche pas de parler de la Mongolie. D'ailleurs, je me suis un peu piégé tout seul, puisque dans la première partie, c'est plutôt un texte poétique, mais qui ne voulait pas être trop réaliste. Et dans la deuxième partie, mon éditeur m'a piégé en me demandant de faire une suite. Et là, j'étais obligé de me plonger dans des choses beaucoup plus précises et réalistes. Alors, la première partie, elle est plutôt la fiction complète. La deuxième partie, il y a des références réalistes. Mais j'aime bien garder aussi cette espèce de rencontre avec le chamanisme, que je trouve assez fascinant. Et je trouve que c'était très intéressant d'envisager une redécouverte des valeurs mongoles.
Mais alors, au travers de cette redécouverte des valeurs mongoles, est-ce qu'on doit y voir peut-être, non pas un message, mais le besoin pour nous-mêmes de retrouver certaines de nos valeurs occidentales, ou françaises, ou bretonnes ?
Alors là, question un peu piège. Je crois qu'il y avait l'idée, c'est quand même un roman très humaniste, l'idée de rencontrer l'autre à travers l'imagination et puis aussi certaines réalités que j'essaie de confronter, de rapporter les deux. L'idée aussi, c'était de plaider pour un peu l'écologie, c'est-à-dire que la pollution dans la ville de Lambator est très importante. Et les camps de réfugiés autour posent quand même problème, sachant que l'intérieur de la ville est beaucoup plus ouvert. Le développement économique est beaucoup plus important. Donc il y a des contrastes qui sont assez forts. En même temps, bon, je ne me suis pas trop... le roman se finit vers l'an 2000, donc voilà, ça me laisse de la marge. Ouais.
Alors Jean-Louis, pour élargir un petit peu cette question de la fiction, de l'écriture... je sais que vous êtes à la fois poète et dramaturge, en plus d'être romancier. Comment parvenez-vous à évoluer entre ces trois ou même plus types d'écriture ? Parce que vous avez fait aussi des ouvrages illustrés, vous avez participé à des ouvrages illustrés. Comment vous arrivez à naviguer d'un rivage des Sirtes à la Mongolie, de poésie en théâtre ?
L'idée, au départ, c'est une certaine liberté dans l'écriture. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à me confronter à mon éditeur qui revenait sur ce que j'avais écrit, alors que je me suis senti parfois beaucoup plus libre pour l'écriture. Donc, j'ai pu inventer des dialogues. Alors, j'ai imaginé un jour, je me promenais à Lourmarin et je vois la tombe... je savais qu'il y avait la tombe d'Albert Camus. Et un peu plus loin, je vois la tombe d'Henri Bosco. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait se raconter ? Donc j'ai imaginé un dialogue dans ce sens-là. Moi, j'aime beaucoup la mythologie. Donc j'ai aussi écrit un livre sur le Minotaure. Enfin, les derniers jours du Minotaure. Pour essayer de le situer dans le contexte juste avant l'arrivée de Thésée et avant sa mort. J'ai écrit un dialogue sur ce que pouvait se dire Calypso et Ulysse. Quand Ulysse est encore prisonnier de Calypso, voilà. Donc il y a une inspiration, assez classique et en même temps des petits grains de folie, je pense.
Et actuellement, Jean-Louis, vous écrivez quelque chose ? Vous allez proposer quelque chose prochainement à votre éditeur, à votre dernier éditeur ?
Alors, question intéressée. Actuellement, j'ai quitté la Mongolie, je suis parti en Indochine et donc je viens de finir un scénario de bande dessinée. Qui se passe en Indochine dans les années 20, avec un personnage qui a survécu à la guerre 14 et qui prend un poste là-bas. Et sa rencontre avec une Chinoise qui ne rêve que de révolution et d'émancipation du peuple indochinois. Donc c'est la confrontation entre ces deux personnages et puis le vent de l'histoire un petit peu à cette époque-là qui va entraîner nos héros dans diverses aventures.
Alors avant de nous lire peut-être un passage du roman Les Voix des Chamans, est-ce que vous pourriez vous décrire, en fait, nous dire ce que vous faites, le fait que vous êtes germaniste, que vous êtes passionné de plein de choses, et qu'on vous connaisse un peu plus, qu'on sache un peu plus où vous puisez votre inspiration et votre imaginaire.
Bon, il y a certainement, c'est lié à mon travail, je suis enseignant, et enseignant en lettres classiques, donc j'aime beaucoup la théâtre grecque, ce qui fait que mes plongées dans la mythologie sont... pour moi, assez classique. Je suis évidemment un énorme lecteur. Et c'est difficile quand on est un gros lecteur d'écrire parce que ne pas se faire influencer. Et ça m'a joué parfois des tours dans les recueils de poèmes où j'avais piqué un ou deux vers à des poètes que je connaissais bien. Donc, des fois, c'est un peu bizarre.
Mais à l'insu de votre plein gré.
Non, mais on m'a rendu compte un peu plus tard, mais bon. Autrement.
Et vous allez souvent en Allemagne ?
Alors, je vais souvent en Allemagne. Ça, c'était une expérience il y a près de 25 ans. En fait, je n'étais jamais allé en Allemagne. Et puis, pour différentes raisons familiales, le rapport avec les Allemands était très difficile. Et puis, je suis allé en Bavière. J'ai rencontré un professeur avec qui je me suis lié d'amitié depuis plus de 25 ans. Et donc, c'était un peu faire la paix. Parce qu'une histoire familiale est un peu compliquée avec ça. Et c'était très bien.
D'accord. Jean-Louis, je vous propose de nous lire un passage des voix des chamans.
Alors pour situer le passage, on est dans les bidonvilles d'Oulan-Bator. Et le personnage, la jeune fille, Alan Koa, les visite et va prendre des photos. Les palissades se succédaient à hauteur variable, fabriquées avec des planches de bois brut et noueux passées à l'huile de vidange. Elles suivaient les collines qui encerclaient Oulan-Bator. Mais ce n'était pas le campement de l'armée d'Edjis Khan. C'était des enclos irréguliers, à perte de vue, qui enserraient des yourtes plus ou moins faites de briques et de broc. Des rues poussiéreuses traversaient ces zones d'habitation, encombrées de déchets à peine identifiables, et où traînaient des chiens calmes et faméliques, et des enfants souvent crasseux. La ville des yourtes est l'envers du centre de la ville. C'est là où viennent s'échouer des nomades devenus par la force des éléments des sédentaires oubliés. Alan Koa n'eut sur le moment plus du tout le cœur à photographier ses rêves perdus, comme les yeux de l'homme au bout de la rue qu'elle venait d'arpenter. Il était assis sur une caisse de bois, fumant une cigarette malodorante et regardant devant lui, à la périphérie de la ville, la steppe qui se déroulait, si proche et devenue si inaccessible. Ils étaient loin du compte, les enfants de Gengis Khan, l'ancienne figure nationale du pays dont on avait dressé une immense statue au centre de la capitale. La jeune femme n'ignorait rien des vies difficiles que les anciens éleveurs éprouvaient, réfugiés dans leur propre pays. Fille de la steppe, elle avait néanmoins réussi à passer de l'autre côté de la ville, le plus prometteur et le plus fermé aux égarés qui l'entouraient ici. L'homme avait une bouteille de mauvaise vodka calée dans le large pli croisé de sa veste de cuir qui lui avait longtemps permis de résister aux grands froids hivernaux. Il semblait désormais anesthésié, vacillant ou oscillant légèrement sur sa caisse. L'alcool, elle était le refuge instillé peu à peu par la présence russe, assimilé comme facile échappatoire au déclassement des nomades perdus. Le cliché était fréquent. Même pour une photographe, ce n'était pas drôle de voir un tel cliché. Ces hommes désormais arrachés à la steppe étaient appelés communément et sans pitié les cornichons, conservés dans l'alcool.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis. Merci pour cette intervention, cette rencontre. Et merci pour ce très beau roman.
Merci.